Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Épisode 2 de la saison 2 de Bip Bip, bienvenue. Je crois que ça va faire bientôt 3 mois que j'ai commencé ce projet. En tout cas, il me semble que c'est la veille des 3 mois après le premier épisode. Et je m'étais promis de le faire pendant au moins 3 mois. Donc ça y est, on est déjà pas loin du bout de ce que je m'étais engagé de faire. Je le redis, je vais continuer. Les raisons... sont liés au fait que ça m'aide largement à me motiver. Je crois qu'en fait, j'ai exposé les raisons dans le résumé de la saison 1. Je ne ferai pas de résumé de la saison des 3 mois plus tôt parce que j'ai le résumé de la saison justement et que j'en vois pas l'utilité, mais sachez que je suis à un jour et du coup, normalement, le jour où vous l'écouterez, et c'est-à-dire demain, donc j'enregistre un dimanche, le jour où vous l'écouterez, enfin les tryharders, on va dire, ceux qui me suivent le plus assidûment, écouteront le 8 avril. Et il faut savoir que le 8 avril 2024, ça fera 3 mois que j'ai commencé. Et je m'étais engagé à faire ceci pendant 3 mois. Donc voilà qui est fait. Ça fait toujours plaisir de répondre à ces objectifs. Et sur cette note positive, nous allons pouvoir commencer le résumé de la semaine en commençant par la première rubrique maintenant définie dans cette saison 2, qui est la météo. La météo et la note, tout ça, ça va être global. En gros, il met un petit avis général sur ma semaine. Alors, je pense que la meilleure description de cette semaine est du brouillard sous le soleil. Sincèrement, j'ai pas mieux à dire parce que, je le redis, les vacances m'ont fait du bien, je suis parti avec les idées claires. J'ai toujours plein d'énergie, mais sincèrement, la reprise a été compliquée. J'ai eu l'impression de trébucher pendant une semaine, de prendre du retard, de plus être rodé sur mes habitudes, de plus être aussi performant. Et donc voilà, un peu de brouillard, un peu de « ah voilà, la machine est huilée, on va dire, et non huilée justement, la machine grince, j'ai du mal à la relancer ». Je pense que je suis bien reparti et que les habitudes, ça se perd en un jour et ça se reprend en une semaine ou deux. Et sur la fin de la semaine, j'ai senti que je retrouvais un petit peu mon pic de productivité et de performance, mais c'est quand même pas quelque chose qui a été facile tout au long de la semaine. J'étais totalement perturbé du fait qu'il y ait eu le lundi de Pâques et qu'on commence le mardi, mais moi, vu que j'ai pas vraiment de jour de repos, je fasse un peu tout le temps, j'ai pris du retard. La nouveauté avec X Twitter que je développerai plutôt dans le point réseau, ça a quand même rajouté des choses. Il faut que je sois un petit peu plus rodé pour que ça fonctionne. Dans tous les cas, l'humeur était assez positive, mais le fait est que j'ai pas été très productif et que ça m'a un petit peu sapé le moral. Donc la tendance générale, c'est du soleil, mais j'ai passé un nuage de brouillard et j'espère finir le brouillard et reprendre un soleil sec et ensoleillé et une vue loin. C'est lié un petit peu à ma note, le fait que j'ai pas été productif. En fait, il y a eu plusieurs sujets. Il y a eu le manque de productivité par la reprise et du coup, les objectifs mettent un peu plus de temps à être atteints que normalement. Et en plus, j'ai eu des imprévus qui ont fait que j'ai fait d'autres choses que ce que j'avais noté pour avoir une bonne note, ce qui fait que j'ai ma pire note depuis le début de Bip Bip. C'est pas ridicule et j'ai la chance de me retrouver à une note correcte grâce au développement personnel, mais du coup, sincèrement, je ne suis pas fier de ma semaine. C'est pas grave, j'ai l'énergie, je suis ok avec le fait que c'est une semaine sans, que c'est la reprise, mais bon, il va falloir y aller. Et je me rends compte et je appuie sur ce que j'ai dit à l'épisode précédent où je crois le résumé de la saison. En effet, j'ai sous-estimé le poids des habitudes sur ma productivité. Donc les habitudes, je pense, ne font pas tant que ça pour mon humeur, la gestion du stress et comment je me sens. Par contre, sincèrement, je me suis rendu compte à quel point là, de janvier à mars jusqu'à mes vacances, j'étais productif. Parce que déjà là, je me suis vu quasiment deux fois moins productif cette semaine que j'aurais pu l'être avant. Et avant, je me sentais pas au max, mais j'étais plutôt à 80%. Là, j'étais plutôt à 50. Donc voilà, on est plutôt sur cet ordre d'idée-là. En tout cas, justement, je me rends compte à quel point bien dormir, bien manger, prendre des compléments alimentaires, méditer, ça aide, en tout cas avec mon expérience, ça aide beaucoup plus à la productivité qu'à l'humeur et à se sentir bien en général. Donc après, la productivité aide à résoudre, à répondre à ses objectifs et du coup se sentir bien parce qu'on se sent capable de faire les choses. Mais voilà, un petit retour là, justement, je l'ai vu à quel point, ah ouais, quand je suis bien rodé, je peux vraiment aller quasiment deux fois plus vite sur mes tâches et arrêter de m'éparpiller. Donc voilà, il y a eu un gros sujet autour de d'être dispersé. La déconnexion, c'était pas top, etc. On en reparlera dans le développement personnel. Et donc, tout ça m'a mené à avoir une note de la semaine de 6,5 sur 10. Ce qui est pas fou, hein. Ça fait quasiment ça fait 35% des tâches qui n'ont pas été faites, tout coef confondu. Mais en gros, voilà, faut se dire que, imaginez que j'ai prévu 10 tâches, bah, en fait, j'en ai fait que 6 et ça fait 35% de mes objectifs de la semaine qui n'ont pas été faits. C'est discutable, mais voilà, je suis assez en paix avec ça. En tout cas, météo. Du brouillard sous le soleil et note 6,5 sur 10. Et donc voilà pour ce qui est des petits commentaires généraux. Et maintenant, on va pouvoir commencer par la rubrique thèse. Alors pour ce qui est de la thèse, c'est la cata. Globalement, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis fait beaucoup avoir par des événements qui sont arrivés, notamment, et on peut appeler ça une nouvelle intéressante, une bonne nouvelle à vous d'en juger. J'ai eu la réponse du journal, de Journal of Trust Research, donc le journal auquel j'ai soumis mon article numéro 1, qui globalement me dit qu'il me laisse l'opportunité de pouvoir resoumettre avec un changement du texte. Alors ce que ça veut dire, c'est que ils auraient pu me refuser, et même la plupart des relecteurs, donc en fait il y a trois chercheurs qui m'ont relu, que je connais pas et qui me connaissent pas, qui ont mis des commentaires, et ensuite ils mettent une décision en général. Et leur décision était un rejet, c'est-à-dire refuser que l'article soit publié. Mais l'éditeur, qui est la personne qui chapeaute le tout, qui organise et qui lui décide, fait la décision vraiment au final sur la base des commentaires des reviewers, a conclu que, il y avait de quoi faire des changements sur mon article pour qu'il soit accepté. Donc j'ai eu un long mail d'un éditeur qui m'explique en anglais. À quel point je pourrais changer mon écrit, expliquer tel sujet, rechanger tel paragraphe pour potentiellement être relu, pour potentiellement être accepté. Alors, c'est à mes yeux une bonne nouvelle. Déjà, ça avance, ça fait du bien. Ensuite, c'est pas un refus parce qu'ils auraient très bien pu dire non, votre article est nul ou enfin, ils l'auraient mieux dit, mais votre article ne mérite pas d'être dans nos journaux et ils l'ont viré. Bon, il me faut comprendre que c'est un peu sur la limite, à voir. Et dans leurs commentaires, et c'est là où je trouve que c'est une bonne nouvelle, il n'y a rien fondamentalement qui m'effraie dans le sens où on me demande d'expliquer des choses, d'autres où voilà, ils demandent plus de contexte, d'autres où ils auraient aimé que j'utilise un autre style de littérature. En tout cas, c'est que c'est beaucoup de choses que je peux mobiliser. Et moi, ce dont j'avais peur, surtout dans un journal sur la confiance, c'est qu'on me dise ben non, enfin, vous pouvez pas dire ça, c'est totalement faux, ou ça tient pas la route, enfin voilà, ce que vous développez ne tient pas. Là, c'est plutôt, ils voient pas trop ce que ça apporte dans la littérature et ils ont des points d'incompréhension, soit parce que j'utilise des statistiques qu'ils connaissent pas et ils le disent et je sais qu'elles sont rares, c'est de l'analyse de discours. Et donc, des fois, ils voient pas ce que ça peut apporter et ils ont des discussions méthodologiques auxquelles je peux répondre totalement. Et d'autres fois, c'est un petit peu théorique, mais sincèrement, rien qui me fait peur, quoi. J'ai lu les commentaires et je me suis dit, d'accord, ok, je comprends qu'ils disent ça. Enfin, c'est que des choses où, voilà, ils demandent plus de détails et les détails, je les ai. Donc, moi, j'ai pas spécialement peur. Le fait de pas avoir peur, ça veut pas forcément dire que je pense que ça va être accepté parce que j'ai pas l'expérience de savoir à quel point c'est facile d'être accepté. Mais en tout cas, là, à l'état actuel de mes connaissances, je me dis, bah, je sais ce que je peux faire et je vois comment je peux répondre aux commentaires. Donc, disons que c'est une bonne nouvelle. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais finalement, ça prend de l'énergie, ça coupe dans une journée. On lit plusieurs fois, on échange des mails avec les encadrantes, on décide. Et du coup, voilà, ça peut casser un peu des objectifs dans une semaine. Et ça a été le cas, surtout le fait que je sois dispersé. Donc, le fait d'avoir ça, et bah, je lis le mail plusieurs fois, puis ça me coupe, puis j'en réfléchis, puis je le relis, puis je l'envoie à des co-auteurs, on en rediscute, et ça fait perdre du temps. Mais voilà, en tout cas, article numéro 1, j'ai enfin une réponse, et bah, il va falloir que répondent aux commentaires pour essayer de resoumettre cet article. Au-delà de ça, il fallait que j'avance sur ma méta-analyse qualitative des mesures de la confiance. Et ça a été fait. Alors, je devais faire un point avec une encadrante, ce qui n'a pas été réalisé, mais ça a été organisé. Ça va se faire la semaine prochaine. Et je devais faire mon plan détaillé. C'est quelque chose qui a été fait. Donc, je me suis. Alors, c'était sur 2 points. Je me suis attribué 1,5 parce que le point d'information n'a pas été fait, mais ça a été organisé. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. Et le plan détaillé est fait. Je réfléchis à ce que je peux vous donner d'intéressant. Quand je dis plan détaillé, en fait, j'ai mon plan et j'aime bien commencer à ranger dans le plan. Je le fais proprement sur Word et je commence à ranger mes idées, soit par liste, soit par si j'ai déjà fait des brouillons, mettre les parties déjà. Et puis, en fait, à chaque fois, la manière dont j'écris un article, c'est que je rajoute une précision et des compléments sur chaque partie à chaque fois. C'est-à-dire que je commence avec le plan, puis ensuite je mets des premiers styles d'information, puis je mets des notes, et en fait je fais plusieurs passes, comme si je faisais plusieurs couches, et à chaque couche je rajoute plus finement. C'est quelque chose qui me permet de largement éviter la page blanche, et du coup je fais un peu tout en même temps, et à chaque fois je repasse, je repasse, je repasse, et ce qui fait que on a une relecture générale, on se rend compte de tout ce qu'on veut dire, de la structure, on a la structure en tête. Et ouais, ça évite la peur de partir d'une page blanche et se dire en intro, on fait quoi? On le construit un peu petit à petit, chaque bout par chaque bout. Et donc, vu que j'avais déjà eu une version de cet article, une version écrite avec les articles qui ont été sélectionnés avant, donc là, je le répète, je suis en train de sélectionner potentiellement des nouveaux articles que je peux rajouter dans cet article-là, donc des articles qui montrent des mesures de la confiance, qui montrent une validation d'une échelle de mesure de la confiance entre 2 personnes, précisément. Et vu qu'on va peut-être en inclure de nouveau, les stats ne seront pas exactement les mêmes, mais par contre, globalement, la structure des paragraphes, les idées seront les mêmes, parce que je vois, comme je l'ai dit, dans des précédents épisodes, je me rends compte qu'on ne va pas rajouter énormément d'articles pour ce travail-là, et donc les stats vont pas énormément changer, donc je sais que je peux à peu près commencer à écrire, et voilà, ça fait du bien, j'avance petit à petit, je pars de réfléchir à un plan sur la base d'exemples, ensuite sur ce plan j'ouvre les paragraphes et je commence à mettre mes idées ou des premières figures, des premières choses, comme ça, à chaque fois, ça peut aussi me permettre d'être flexible et de me dire, j'arrive sur mon Word, je me dis, ah bah tiens, là j'ai envie de rédiger cette partie, je rédige cette partie. Je relis à un moment et ah ça, je trouve que ça peut être amélioré. C'est une manière flexible que je trouve de faire qui me va bien. Donc c'est les seuls points quasiment sur la thèse cette semaine. C'est sur cette analyse qualitative des mesures de la confiance où j'ai organisé le point et j'ai commencé à travailler sur mon plan détaillé. Autrement dit, je vais vers la rédaction. Mais pour moi, ça passe par une étape de plan, puis de détailler le plan, et ensuite affiner, réaffiner, affiner, affiner. Et puis lécher le travail, comme ça doit être fait pour l'article numéro 2. Donc ça, c'est l'article numéro 3, que j'ai appelé l'article numéro 3, c'est la méta-analyse qualitative. Et l'article numéro 2, c'est l'article où je crée moi-même une mesure. Et donc ça me fait une transition vers cet article numéro 2, sur lequel je devais travailler cette semaine, ce qui n'a pas été fait. Alors, je devais faire un truc qui est chronophage mais simple, c'est de le remettre en page, refaire les titres, les stats, mettre les choses aux normes et se faire attention du journal, les références, etc. En tout cas, travailler la forme. Ça n'a pas été fait, tout simplement parce que j'ai pas trouvé le temps. Parce que la première étape, c'était de trouver le journal. Ça n'a pas été compliqué, mais en fait, j'ai envie de trouver pour cet article un journal qu'on appelle un journal diamant. Les journaux diamants, c'est des journaux dans lesquels les auteurs ne payent pas pour être publiés et les lecteurs ne payent pas pour lire. Donc personne n'est payé, ce qui peut être discutable, parce qu'on pourrait imaginer que les auteurs soient payés ou au moins peut-être les reviewers, qui sont les chercheurs qui relisent. On pourrait espérer qu'il soit payé, mais dans tous les cas, la personne n'est payée, donc les reviewers non plus. Mais au moins, il n'y a pas d'argent qui est donné à une grosse institution, et c'est quelque chose qui est un peu plus, je trouve, dans le sens de la science ouverte et de la science, dans notre cas, en France, financée par l'État. Au moins, on est financé par l'État, et avec ce salaire, enfin, pas moi, parce que je suis autofinancé, je le rappelle, La logique veut que on est quand même les chercheurs sont des fonctionnaires et donc ils n'ont pas à redonner de l'argent à des institutions privées pour être publiés. Et le problème avec ce style de revue, c'est qu'elles sont moins connues, évidemment, et que si on veut être un chercheur connu, il faut vouloir publier dans des revues connues qui ont des indices, des chiffres, des chiffres, des indices, des statistiques qui peuvent montrer en quoi c'est bien, c'est pas bien, le nombre d'articles publiés, etc. Il y a plusieurs manières de le montrer. Je vais passer les détails. Peut-être que je ferai une carte blanche ou une aparté un jour sur les indices de la recherche, mais en tout cas, les revues sont notées. Et on peut savoir si une revue est connue, pas connue. Et connue, ça veut dire beaucoup citée. Du coup, on sait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui citent beaucoup d'articles de ces revues-là, de ces journaux. Quand je dis revue, ça veut dire journaux. Et bah, moi, j'ai décidé de ne pas jouer à ce jeu-là, de ne pas aller vers le connu, parce que généralement, le connu, c'est le payant. Parce que si on paye les institutions de l'argent pour mettre en avant et faire du marketing, et du coup, généralement, plus il y a d'argent, plus c'est connu. Et donc là, c'est plutôt l'inverse. On paye pas, c'est gratuit pour tout le monde, et du coup, il n'y a pas beaucoup de modèles économiques, donc on peut pas le mettre en avant, donc c'est pas très vu, c'est pas très cité, et voilà, ça rentre moins dans le jeu de la recherche, en tout cas dans lequel on veut être lu, cité, connu, etc. Et moi, j'ai plutôt envie de faire de la recherche ouverte au public, en open access, et donc ne pas forcément donner de l'argent à une institution qui le rétribue même pas aux relecteurs ni aux chercheurs, mais qui en plus des fois font repayer aux lecteurs. Et c'est pour ça que j'ai recherché des revues qui rentrent dans ces critères-là. Et j'ai trouvé une revue qui est globalement, alors j'ai pas le nom en tête, mais globalement, c'est une revue, un journal, qui publie des mesures en psychologie sociale, donc des échelles de mesure. Donc c'est exactement ce que je fais, avec des critères éthiques qui me plaisent bien, c'est-à-dire payant pour personne et en open access. Et donc bah voilà, j'ai choisi le journal, mais le temps de faire ça, bah en fait, ça sert à rien de faire la mise en forme tant qu'on n'a pas choisi le journal, parce que sur le site du journal, en fait, on peut voir ce qu'ils attendent en termes de forme, parce que chaque journaux ont des attentes différentes en termes de mise en forme, que ce soit les graphiques, la manière d'introduire, le nombre de mots dans le résumé, le nombre de références bibliographiques, etc., et plein de détails. Donc étant donné que je me suis mis en retard dans ma semaine, qu'il y a eu des imprévus, le moment où je me suis mis à devoir choisir le journal, c'était un moment trop avancé dans ma semaine pour que je puisse avoir le temps, ou me donner le temps, de mettre en page cet article. Donc la seule chose qui a été faite sur cet article numéro 2 de création d'une échelle de mesure de la confiance, c'est le choix du journal. Et je devais l'envoyer pour relecture au co-auteur, mais en fait je me suis dit bah autant attendre que je remette en forme le truc avant de l'envoyer au co-auteur, parce qu'ils sont pas à une semaine près, et pourtant moi bah, je peux quand même donner une image d'un article qui est assez fini, sachant que les co-auteurs s'en fichent si telle lettre est en italique ou la virgule est bien placée. On est à ce niveau de détail-là hein, pour être publié, mais en tout cas les co-auteurs s'en fichent. Par contre, s'il y a quelque chose que je veux vérifier, c'est est-ce qu'il y a bien assez de graphiques? Est-ce que les graphiques sont assez bien expliqués? Est-ce que le titre est bon? Est-ce que tout est traduit? Et ça peut vraiment nuire à la relecture. Donc des co-auteurs qui ont moins été investis dans la construction de l'article peuvent moins, enfin plus facilement comprendre et donc moins comprendre. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que je fasse la mise en forme avant de l'envoyer au co-auteur. Donc j'avais trois choses à faire: choisir le journal, mettre en forme et envoyer au co-auteur. Et j'ai juste choisi le journal. Ce que j'avais déterminé comme étant 0,5 points sur tout le travail sur cet article-là qui valait 3 points. Et ce qui me fait du coup une note sur la thèse de 1,5 sur 5. Parce qu'il y avait un autre point qui était dédié, et je m'en doutais que je ne le ferais pas, mais qui était dédié au reviewing, donc à la relecture d'un article qui n'est pas le mien, pour un journal scientifique. C'est le moins important, évidemment, parce que de un, je suis pas payé, et de deux, c'est pas mes projets. Donc si j'ai pas de temps déjà pour mes projets, c'est difficile d'en trouver pour ceux des autres. Et donc ça n'a pas été fait non plus. Donc j'ai pas beaucoup avancé sur la thèse. Et tout ça me fait une note de 2 sur 5. Je veux faire juste un petit complément sur le fait de trouver un journal diamant. Comment je m'y suis pris? Alors il y a un truc qui est super bien, c'est le DOAJ. Donc c'est un site, DOAJ, dans lequel on peut demander de trouver des journaux qui sont dans notre discipline et qui sont en open access. Et ensuite, on peut jurer aussi les droits. En tout cas, voilà, il y a des critères. Donc, le site sur lequel je trouve des revues comme ça, et où c'est facile de les trouver, c'est le DOAJ. Et ensuite, il faut mettre des critères qui sont assez clairs, en tout cas, quand on commence de faire de la recherche. Les mots-clés, c'est les copyrights des auteurs, où on veut faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, et en open access, full open access, gold open access, free, etc. Donc, quand c'est open access, ça ne veut pas dire que c'est gratuit pour tout le monde, parce que justement, le système des journaux normaux, on va dire, c'est que l'auteur paye pour que ce soit open access, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui paye pour que le lecteur ne paye pas. Et donc là, moi, ce que je cherche, c'est que ce soit ni à l'auteur ni au lecteur de payer. Mais c'est le genre de truc qu'on peut mettre sur le site DOAJ pour trouver une revue diamant. Alors, je crois que c'est pas très répandu le terme diamant. Donc, chercher revue diamant sur Google, ce serait pas forcément la meilleure manière d'en trouver. Mais voilà, passez par ce site-là, DOAJ. .fr.com, je sais pas, mais bon, je pense que si vous tapez DOAJ revue scientifique sur Google, vous pourrez le trouver. C'est quelque chose qui est intéressant pour trouver une revue qui peut être, bah, déjà si on n'a pas beaucoup d'argent, qui accepte des articles sans qu'on ait à les payer, et en plus qui répondent à des critères éthiques qui sont en tout cas les miens, c'est-à-dire si c'est pour donner de l'argent à des institutions et même pas aux chercheurs qui font le travail de relire les articles, bah, je préfère que personne soit payé et je participe pas à un modèle économique qui ne me satisfait pas. Voilà pour ce que j'ai fait niveau thèse cette semaine. Et donc pour la semaine prochaine, et bah, de toute façon, vous n'allez pas être étonné. Cet épisode, étant donné que je n'ai pas été très bon cette semaine, bah, je vais globalement avoir les mêmes objectifs pour la semaine prochaine. Et donc c'est de mettre en forme cet article numéro 2, me semble-t-il, oui, sur la création de la mesure d'une échelle, une échelle de mesure de la confiance, la mettre en page, comme prévu cette semaine. Et sur cet article 3, analyse qualitative des échelles de mesure de la confiance de la littérature, et bah, avancer sur au moins une partie des résultats, avoir une partie des résultats clairs. Alors il faut savoir que je commence les résultats, même si on n'a pas décidé de la finalisation de l'inclusion des nouveaux articles. Mais étant donné que bah, j'ai envie d'avancer et que moi j'ai déjà inclus des nouveaux articles et que je vais avoir le point la semaine prochaine avec mon encadrante sur quels nouveaux articles on fait, je sais que je peux déjà faire une première trame et ça changera que quelques pourcentages mes statistiques parce qu'on ne va pas rajouter une dizaine d'articles, je m'en suis rendu compte maintenant. Donc j'ai pour objectif pour ce projet-là de rédiger une partie des résultats, sachant que c'est facile pour moi de le voir comme ça parce qu'en fait, cet article, je l'ai construit en plusieurs, vraiment beaucoup de parties de résultats, parce que le but, c'est de mettre à plat, faire un gros point sur quelles sont les mesures de la confiance interpersonnelle dans la littérature. Et j'ai plein de petits sujets à aborder, et ces petits sujets sont organisés dans un plan, et donc je peux faire un petit sujet par un petit sujet. Et donc je trouve ça bien de me dire de faire une partie, ça va me mettre le nez dans les stats, dans mes données, et puis dans la rédaction. Voilà, c'est un objectif qui est pas mal. C'est peut-être un petit peu léger, j'avoue, une partie. Mais on va faire léger la semaine prochaine, ne serait-ce que pour se donner l'impression, enfin plus que l'impression, mais en tout cas appuyer le fait qu'on avance, et puis se rassurer, et se faire du bien de pourquoi pas aller vers un 10. Donc je ne vais pas baisser mes objectifs, mais voilà, je fais attention, c'est un gros sujet sur cette saison 2 de prendre soin de moi. Et donc je fais attention à me donner des objectifs réalisables et de temps en temps, pourquoi pas, un peu soft. Donc peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup pour la semaine prochaine, mais au moins je suis sûr de les faire et je serai content d'avancer. Et j'ai un troisième objectif pour la semaine prochaine, lié à la thèse. C'est plus ou moins à la thèse, je ne sais pas trop où le mettre, mais on va dire que c'est à la thèse parce que j'ai un cours, je dois préparer un cours sur la communication, et c'est un cours de même pour préparer un concours d'éloquence, mais moi c'est plutôt sur un angle de communication que je vais travailler. Et donc j'ai des bases en communication, j'ai des bases en rhétorique, j'ai des bases en surtout en l'impression qu'on renvoie en tant que personne, en tant que groupe, etc. Ça c'est vraiment ce que j'ai appris et ce que je connais en psychologie sociale. Mais du coup, j'ai envie de profiter de cet élan pour de savoir que j'ai ça à faire, un cours à faire. Donc c'est un cours à la fac, donc c'est plutôt en vacation, c'est pour ça que c'est pas niveau entreprise, parce que concrètement, je vais pas être très bien payé, et en plus, les vacations, ça met entre 6 et 12 mois pour être payé, donc concrètement, il faut pas compter dessus pour en vivre, et du coup, là, c'est plutôt remplir les quotas d'heures pour avoir une thèse que avoir de l'argent, parce que quand on fait une thèse, on doit faire un certain nombre d'heures de cours, donc on va dire, je le mets dans le critère thèse, et je me donne pour objectif de avancer très concrètement sur l'élaboration de ce cours, sachant que je vais avoir la personne qui gère ce cours pour comprendre ses attentes, mais j'ai concrètement envie de bien avancer dans un bouquin soit de rhétorique, soit de communication la semaine prochaine. C'est difficile pour moi de donner quelque chose de mesurable, un nombre de chapitres, etc. Mais j'essaierai d'être honnête avec moi-même et là, c'est pas un chapitre de livre que je dois me donner. Je sais que je suis capable, avec la pression, de lire beaucoup et je pourrais vous dire, je dois me taper un livre en entier cette semaine. Il faut que je fasse attention quand même parce que j'ai pas mal de rendez-vous déjà, donc en fait, j'ai déjà pas tant de temps que ça de travail de libre la semaine prochaine. Mais voilà, je sais qu'il faut que je bouffe une belle partie d'un livre sur la communication pour que je commence à avoir une idée de ce que je veux transmettre et compléter sur mes connaissances avec des livres qui sont basés sur le nom du cours. Et comme ça, je peux compléter, mettre un petit peu de moi, ma patte, de ce que je sais et puis vraiment de ce que j'ai compris qu'on transmet quand on parle de communication. Voici pour ce qui est de la rubrique thèse. On va maintenant pouvoir passer à la rubrique entreprise. Alors, on va commencer la rubrique entreprise par la sous-rubrique, ou appelez-la comme vous voulez, des réseaux. Alors déjà, je vais faire un point sur les réseaux. En règle générale, ça ne va pas. Donc ça ne va pas, ça ne veut pas dire que je suis triste, enfin que je déprime, etc. Mais concrètement, soyons honnêtes, j'ai une grosse baisse sur les réseaux. En plus d'une grosse baisse sur les réseaux, j'ai tout simplement Twitter qui ne marche pas du tout. Où êtes-vous? J'ai envie de vous demander. Venez s'il vous plaît, je me sens affreusement seul. Peut-être que, c'est une petite explication qui m'irait bien, c'est que entre le moment où je poste l'épisode et le moment où vous écoutez l'épisode, bah déjà, tout le monde ne va pas me suivre sur Twitter, je le sais. Et j'ai pas des centaines de milliers de personnes qui m'écoutent, je le sais. Donc je m'attends pas à ce que le Twitter explose. Mais là, concrètement, j'ai deux personnes qui me suivent. C'est deux personnes que je connais qui sont proches, dont une à qui j'ai directement demandé de me suivre. J'ai aucune réaction sur mes posts. Donc ça ne marche pas du tout. Si ça vous intéressait et que juste vous n'y avez pas pensé, franchement, venez me suivre, ça me ferait plaisir. Et sinon, peut-être que c'est vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je poste un épisode, il y a des nouvelles personnes qui commencent le podcast à zéro. Et donc, s'ils commencent à zéro, et ben, en fait, le temps qu'ils arrivent à l'épisode dans lequel je dis j'ai un Twitter, venez vous connecter, ben, il va arriver dans longtemps. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et il y a peut-être aussi, et je l'exclus pas du tout, peut-être que c'est une mauvaise idée. Je sais que ça fait pas assez longtemps pour déterminer que c'est une mauvaise idée. Mais concrètement, je doute énormément. J'ai vraiment deux, trois impressions, donc impressions vues, quoi, par poste. J'en ai déjà une dizaine qui sont sorties. Alors je sais que c'est pas les meilleurs postes du monde. J'essaye quand même de faire quelque chose d'intéressant, soit par un petit peu voyeurisme, où en fait je montre un petit peu mon monde et comment je vis cette aventure, soit j'amène un petit peu de science et de choses intéressantes, divertissantes. Enfin, en tout cas, j'apporte quelque chose qui est à la hauteur de ce que je vois de Twitter, c'est-à-dire que je vais pas vous bassiner avec de la théorie, il faut être divertissant, intéressant, voilà, un petit truc. Vraiment, j'ai aucune prétention de me dire que je vais renverser votre Twitter, mais j'essaye voilà, d'être un petit tweet intéressant. Où on peut apprendre quelque chose, avoir une ressource, ou bah, être content de voir un petit peu plus ce que je vis au quotidien. Donc voilà, ça ne marche pas. Pareil sur LinkedIn, sincèrement, ça ne marche pas bien. L'abécédaire de la confiance ne marche pas très bien. Mes posts hebdomadaires ne marchent pas très bien. Et ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de faire d'autres types de posts. Je pense qu'il est grand temps que je reprenne des posts un peu plus d'opinion pour. Parce que c'est ce qui fonctionne, quoi. Qu'est-ce que j'ai cru penser de tel sujet dans la santé? Qu'est-ce que je pense du monde de la santé? En fait, c'est vraiment, je pense que j'ai vu que ça fonctionne. Je vais essayer, j'ai déjà essayé, je crois, pour le post sur l'abécédaire de la confiance, où je fais un article, une semaine, une lettre de l'alphabet. Je vais essayer de tourner le truc et pas regarder l'abécédaire de la confiance en assumant que les gens s'en fichent de la théorie et du coup je vais pas leur dire encore un article sur la confiance, mais plutôt tourner ça comme une opinion, essayer de faire un truc un peu plus vivant qui donne envie de cliquer et ensuite les gens se comprendront que c'est lié à un projet d'abécédaire de la confiance. Je vais, voilà. Gros doute en ce moment. J'ai encore l'idée selon laquelle la quantité des interactions sur les réseaux n'est pas du tout liée à la qualité des interactions. Parce que, et c'est ce qui fait que je vis pas beaucoup, pas très mal cette phase, c'est que j'ai la semaine prochaine, je crois, 3 ou 4 rendez-vous, dont des gens qui viennent des réseaux. Et en fait, aujourd'hui, le simple fait d'ajouter des gens sur LinkedIn, les gens me renvoient un message en disant je serais ravi de, je serais ravi de suivre, de qu'on discute, je serais ravi de collaborer avec toi. Et donc, j'ai encore une potentielle cliente, en tout cas quelqu'un d'intéressé pour travailler avec moi de manière rémunérée, qui est venu de LinkedIn et qui est venu directement sur un ajout. Donc, c'est même pas une réaction à poste. Rien que le fait, je pense que j'ai un profil assez propre avec des posts et des gens qui me likent, ça fait de la preuve sociale en fait. J'ai 2000 personnes qui me suivent, tu vois que je fais des posts souvent, tu vois que j'ai une description pas moche, pas ridicule, j'ai une tête pas ridicule, j'ai deux trois titres qui font stylé, hein, il faut dire ce qui est, et je joue avec ça, hein. Ce serait hypocrite de dire que j'ai mis par hasard psychologue, entrepreneur, doctorant. Voilà, j'ai fait en sorte d'avoir un beau CV parce que c'est comme un CV en ligne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le simple fait d'envoyer une demande d'invitation, ça peut me créer des contacts. Donc, ma stratégie réseau fonctionne, on va dire, toujours. Elle est loin d'être parfaite, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sert le fait de me ramener du business. Donc, c'est pour ça que je tombe pas en dépression du fait que les poste ne fonctionne pas, mais c'est à se questionner et il faut voir comment améliorer parce que je pense que ça va s'essouffler. Ce serait logique que ça s'essouffle et du coup il faut savoir se renouveler pour essayer de que les gens soient toujours autant intéressés. Donc je vais pas fermer mes réseaux, mais voilà, Twitter, gros coup de mou. Là où je m'étais dit je vais tester 3 mois, je vais peut-être tester 1 mois parce que sincèrement, et je l'ai dit, parler dans le vide, c'est largement différent que de parler à peu de personnes. Dans le podcast, je sais que je parle à peu de personnes et encore, mais sur Twitter, je parle littéralement dans le vide, je le sais. Et ouais, c'est compliqué hein, de produire du contenu, de prendre du temps. J'ai quand même une thèse à faire, mais je m'en plains pas. Ça fait partie de ma stratégie, donc j'ai l'impression de faire ma thèse en faisant du Twitter. Mais bref, bah, si ça sert à rien, ça ne sert à rien et j'aurais pas envie de le faire. Voilà pour ce qui est du point réseau, je m'étais donné pour objectif de tout simplement faire mes posts de la semaine. Ça a été fait, et encore, hein, j'ai noté que ça a été fait, mais je vais quand même me noter un 0,5. Hein. Ça valait un point, je vais me noter un 0,5, ce qui va me faire baisser la note. Donc peut-être que je vais tomber à un 6 sur 10 de note générale. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose sur la moyenne, etc. Mais j'ai galéré à faire les posts Twitter. Il y a un problème sur l'organisation, parce que en fait. Je sais pas si je rentre dans ce niveau de détail, je vais le dire rapidement. Je suis organisé pour faire tout ce qui est réseau le lundi. Comme ça, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je peux faire l'entreprise et la thèse. Mais là, globalement, eh ben, je sais, vu que Twitter, c'est un style de communication qui est assez proche, il y a des choses qui se passent dans une journée que j'ai envie de transmettre dans la journée. Donc, je ne peux pas prévoir des posts sur toute la semaine. Donc, je réfléchis potentiellement à décaler d'une semaine. Est-ce que les posts qui sont sur Twitter sont décalés d'une semaine? Mais je pense que c'est dommage, on perd un peu le côté vif et puis il faut, enfin, on peut croiser les données, ça demande une organisation compliquée parce qu'il y a des choses que j'aurais envie de transmettre tout de suite. Enfin bref, c'est un petit fourre-tout, c'est normal, c'est un nouveau projet, donc je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre. Je pense qu'à force, je vais prendre mes habitudes qui vont faire que le temps va se serrer. Mais globalement, j'ai pas publié mes 21 posts qui sont 3 par 3 fois 7. 3 posts par jour. J'ai pas publié les 21 sur Twitter parce que tout simplement, voilà, peu de productivité, je me suis dissipé, pas trop d'idées, d'autres choses à faire. On commence la semaine un mardi alors qu'on a prévu autant d'objectifs que si on le commençait un lundi. Et voilà, un petit peu, voilà, je trébuche, je prends du retard qui me fait prendre du retard et voilà, c'est pas top. Voilà pour ce qui est de la partie réseau de l'entreprise. Maintenant, pour la partie plutôt commerciale et formation, mais on est tout, surtout sur. Non, quoique il y a un petit peu des deux. Je devais finaliser et préparer l'évaluation de ma formation, la revoir à tête reposée, faire mes tests à distance parce que c'est une formation en classe virtuelle. Et bah, j'ai plus ou moins. Non, j'ai pas finalisé. En fait. Je me rends compte que c'est infini déjà parce que je pourrais toujours relire et me dire ah ça ce serait mieux, on pourrait le faire comme ça, je pourrais trouver un meilleur outil. Il faut savoir que ma formation est finie, je peux la dispenser, c'est clair, c'est sûr. J'ai mes diapos, j'ai des déroulés pédagogiques, j'ai un WooClap associé, je sais ce que je peux y dire, je sais très bien que ça peut tenir le temps que j'ai vendu. Maintenant, à chaque fois que je relis, je veux faire quelque chose en plus, je veux modifier, et pour le bien du produit. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu rendez-vous avec un ami doctorant qui m'a donné son avis et qui, voilà, encore une fois, a soulevé des points sur lesquels je pouvais m'améliorer. Et donc, ce sera jamais finalisé comme produit, je pense. Donc, j'ai vu revu à tête reposée, j'ai même revu les évaluations parce que j'ai envie que dans cette formation, comme dans beaucoup, il y ait plusieurs évaluations, évaluer la satisfaction, évaluer les connaissances, et puis évaluer à 6 mois à quel point on pense qu'on peut appliquer ce qu'on a appris dans la formation. Ça, c'est des choses qu'il faut que je mette en place. J'ai préparé, je sais ce que je veux y dire, j'ai préparé le Word. Maintenant, il va falloir que je tout simplement les mette en place, c'est-à-dire vraiment pratiquement dans un Google Form ou quelque chose qu'on peut remplir. Voilà, il faut la version finale. Je sais ce que je vais y dire, mais il faut que je le mette en forme, ces évaluations. Ce qui n'a pas été fait. Donc voilà, j'ai travaillé sur. J'ai revu à tête reposée, j'ai réamélioré, j'ai remodifié, mais j'ai pas finalisé. C'est pour ça que je me suis remis 0,5 points sur cet objectif qui valait 1 point. J'ai pas fait mon test avec des proches pour voir, exporter les données et vraiment faire une mise en situation. Ce que je voulais faire, et voilà, sur ce que je voulais faire globalement sur cette partie formation. Et donc tout ça, c'était sur 2 points. Et donc je me mets globalement 0,5 sur 2 points sur tous ces sujets-là. Ensuite, il y avait une relance client à faire. Ça a été fait. Ça vaut 1 point. Bon, c'était peut-être cher payé 1 point parce que finalement, j'ai renvoyé qu'un mail. Il n'y avait qu'un client qui m'intéressait d'être relancé selon ma situation. Je passe les détails, mais c'est surtout par rapport au temps que la prestation pourrait me donner et à la rémunération que ça pourrait faire et à mon intérêt, tout simplement. Donc j'ai relancé qu'une personne en disant bon voilà, on a envisagé tel projet, il y a tel nombre de semaines, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on y va ou pas? J'ai pas eu de réponse. Et un autre truc, c'est que je devais avancer sur l'organisation du coaching pour sur la théorie que le théoricien m'a permis de commercialiser. Ça a été fait aussi, c'est pas quelque chose qui a mis beaucoup de temps, mais voilà. C'est quelque chose qui a été fait. J'ai hâte de construire cette formation, ce coaching. Et avancer sur ce plan-là qui pourrait être une autre offre à lancer. Voilà pour ce qui est de la partie entreprise, en tout cas de ce que j'ai fait cette semaine. J'ai quelque chose qui vient la semaine prochaine, c'est que j'ai rendez-vous avec un mentor. On m'a assigné un mentor parce que je suis associé à un incubateur et au réseau Pépite, un réseau étudiant pour entrepreneurs. On m'a associé à un mentor. Donc j'ai hâte, je vais le rencontrer, j'ai pas d'objectif spécifique, mais avoir quelqu'un qui peut m'accompagner sur le côté business, ça m'intéresse. Et donc voilà, peut-être qu'il y aura un résumé à la hauteur de la confidentialité des échanges la semaine prochaine par rapport à ce que je me suis dit avec mon mentor. Et donc ça me mène aux objectifs de la semaine prochaine, qui sont assez simples vis-à-vis de l'entreprise. C'est finaliser la formation, mais je me sens un peu ridicule d'utiliser le mot finaliser, mais avancer sur les sujets de la mise en place de l'évaluation, de faire mon test avec des proches, de tester l'export des données pour essayer, en fait, quand je dis l'export des données, c'est que je fais une formation sur WooClap et mon but, c'est de transmettre à la fin de la formation aux apprenants quelque chose par rapport à ce qu'on a construit ensemble. Et donc j'aimerais voilà, qu'on travaille ensemble et qu'on finisse par des stratégies pour améliorer la confiance entre les professionnels de santé et les patients, et que je puisse leur donner un écrit, quelque chose qui résume un peu tout ce qu'on s'est donné. Donc je peux exporter des données sur un WooClap et faire en sorte de semi-automatiser ce rapport, ce qui fait que c'est quelque chose qui est utile et qui ne me prendrait pas beaucoup de temps. Et il faut que je fasse les tests de tout ça, et aussi que je revoie potentiellement à créer des nouvelles activités et à remodifier par rapport à ce que je me suis dit avec mon pote doctorant. Donc il faut que je travaille sur cette formation encore parce que c'est le sujet principal hein, dans tous les cas. Une fois que je suis à l'aise avec ça, je le vends à tout le monde et c'est ça qui peut, je sais pas si ça peut me rendre riche, mais clairement c'est le cœur de mon métier. Donc si j'ai qu'un seul truc à faire, c'est ça. Et en fait tout ça confondu, ça peut mettre beaucoup de temps, hein. Ça peut mettre déjà 2 jours, tout compris. Donc si on se dit que la mise en page, j'avais déjà dit que c'était 2 jours dans la thèse. Là, c'est quelque chose qui fait encore 2 jours. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de points, de cases à cocher, mais on est déjà à 4 jours. Si le lundi, c'est un jour réseau, et bah, il reste 4 autres jours si on veut travailler 5 jours sur 7. Et bah on est déjà à une semaine de travail. Donc ça va très vite. Et l'autre objectif que j'aimerais me donner pour la semaine prochaine niveau entreprise, c'est de me remettre des informations sur la communication sur Twitter. Parce que j'exclus pas le fait que je sois nul, hein, je commence. J'ai essayé sur un autre compte de publier, etc. J'ai senti que j'étais pas très bon quand même, hein, tout simplement parce que c'est pas un réseau que je connais. Je pense qu'il faut que j'apprenne les codes et du coup voilà, on va se donner un petit objectif. Nous, si c'est une conférence, comme j'ai dit, maintenant j'ai plus de peur d'apprendre par vidéo YouTube, par conférence, etc. Mais voilà, aller chercher peut-être un peu des petites infos sur la communication sur Twitter pour essayer de voir comment ça fonctionne, parce que là clairement ça ne fonctionne pas et c'est un projet que j'aime bien. J'aimerais bien vraiment pouvoir transmettre des idées de cette manière. J'ai plein d'idées de choses que je veux passer, ne serait-ce que tous mes dossiers de favoris peuvent être intéressants pour des gens qui sont intéressés par la recherche, même des étudiants, sur comment trouver un bon journal, comment le juger, comment faire des statistiques. Vraiment plein de sites qui sont sympas, et ne serait-ce que ça, je peux avoir des dizaines de tweets possibles. Donc voilà pour ce qui est des objectifs de l'entreprise pour la semaine prochaine. Et tout ça nous mène à la dernière rubrique, en tout cas la dernière grosse rubrique de ce podcast. La rubrique développement personnel. Alors, la première sous-rubrique du développement personnel, c'est de tout simplement expliquer l'histoire des habitudes et des objectifs. Comment ça s'est passé? Alors, je n'ai pas validé les 90% d'objectifs cette semaine. Ça a été compliqué. La reprise est sincèrement dure. Et par contre, je vois à quel point les objectifs sont super importants, notamment la déconnexion, parce que j'ai repris les mails un peu toute la journée. Et en fait, on lit un mail, ça donne une idée. Bah, par exemple, j'ai fait l'erreur de lire mes mails en pleine journée. Je suis tombé sur le retour du journal pour publier mon premier article. Évidemment, j'ai arrêté ce que j'ai fait. Et en fait, ça prend pas que le temps de lire un mail. Déjà, ça, c'est un mail important. Donc, je le lis une fois, je souffle un coup, je vais le dire, je transmets le truc. Et ensuite, j'envoie un premier mail et puis je le relis. Et puis après, j'ai du mal à me remettre dedans. Donc, je prends une pause. Et enfin, bref, c'est fou comment on peut perdre du temps sur de la dispersion. Et ça a clairement été le cas cette semaine. Et donc, là où j'ai du mal, la méditation. Tout simplement parce que j'ai l'impression que j'en ai pas besoin et j'oublie. Donc j'ai oublié, je crois, deux fois la méditation. Les pas, ça a été bien, ouais. Marcher, la marche, ça a été bien. Mais voilà, plutôt des oublis sur la méditation et sur la déconnexion, notamment les mails et les réseaux. Et j'hésite sincèrement à passer aux mails une fois par semaine. C'est lié au livre que je lis, donc la semaine de 4 heures, où lui conseille, enfin, Tom Ferriss, Tim Ferriss peut-être, lui il conseille carrément de diminuer le plus possible. Donc lui, je crois qu'il regarde ses mails une fois par semaine. Bon, moi j'estime que c'est pas encore nécessaire, mais une fois par jour, sincèrement, disons à 14h ou peut-être à 17h, je pense que c'est utile. Et il y a quelque chose que j'ai compris surtout, c'est que lire ses mails pour lire ses mails, ça ne sert à rien. Ça bouffe du temps de cerveau. On perd du temps pour se remettre dans la tâche d'avant, voire on fait une autre tâche et puis on se disperse. Et en fait, je me rends compte que des fois, et même quand j'avais la règle de regarder juste les mails deux fois par jour, ou trois, je lis les mails à 14h et j'y réponds à 17h. Et du coup, tant qu'à faire, autant se dire, je n'ai qu'une plage horaire de mails, sauf que c'est ma plage où je lis, je réponds, je lis, je réponds, boum, c'est fini. Parce que du coup, le gros problème avec ces mails, c'est que je travaille, je vais lire un mail à 14h, mais je vais me dire non, je suis discipliné, je dois faire ma tâche cognitive avant, et du coup, boum. Sauf qu'en fait, ça me bouffe du temps de cerveau, ça me stresse, et je suis en train de pré-répondre aux mails avant. Donc, ouais, j'avais pas prévu cet objectif, mais allez, on va essayer comme objectif les mails LinkedIn et Twitter une fois dans la journée. Et il faut que je réfléchisse. Alors, 8 heures, je pense que ça ne sert à rien. Je pense que c'est plutôt 14 ou 17 parce que c'est bien de se réveiller et de ne pas regarder ses mails et de foncer directement sur ce qu'on veut faire parce que c'est la plage sur laquelle on est le plus concentré. Moi, je pense que le meilleur, c'est en fin de journée parce que si on lit à 14 heures et qu'on a un truc qu'on a l'impression, et j'insiste sur l'impression que c'est urgent, ça va nous détourner de ce qu'on voulait faire l'après-midi. Alors que si c'est 17 heures, on envoie, on répond et après on est content d'avoir un petit peu vidé le truc. Donc allez, On va se dire, on va regarder qu'une fois les mails et les réseaux pour la semaine prochaine. À la fin de journée, donc je dis 17h parce que je suis sur une base 9-17, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, une fois les réseaux et les mails, et c'est en fin de journée, et on verra ce que ça fait. Au-delà des habitudes, je maintiens que la lecture en audio est quelque chose qui me va bien. Je lis plus, j'avance, je retiens. Ça me va très bien. Je dirais à mes enfants que j'étais pas un grand lecteur, et c'est pas grave, j'ai pas de soucis. En tout cas, c'est une solution qui me permet tout simplement de lire, chose que je ne faisais pas. Je suis très satisfait. Le bon plat, pareil, je passe les détails, j'essaye de mieux cuisiner, j'ai recuisiné, tout va bien. J'ai d'ailleurs repris une hygiène de vie un peu plus propre, dont le retour à la salle de sport, et j'espère que ça va me faire du bien. Je le mets pas en objectif, parce que pour l'instant je suis assez motivé, et voilà, enfin, j'ai pas envie que ce soit un podcast non plus sur ma vie, ça reste quand même assez professionnel. Mais vu qu'il y a une partie développement personnel, en fait, ouais, ce que je vais partager surtout, c'est que, comme je l'ai dit, les habitudes, je pense que ça m'aide beaucoup pour ma productivité. Et j'ai été déçu de voir à quel point ça m'aide pas tant que ça sur le plan de la gestion des émotions et du stress. Et je pense qu'il y a un truc qui est pas mal. En tout cas, il y a plusieurs trucs qui sont pas mal. C'est déjà de. Et sur laquelle j'ai déjà travaillé, revenir au plaisir perso, se retourner vers des choses qu'on aime faire. Moi, ce qui me détend, c'est plutôt la musique, les jeux vidéo. Et ce que j'ai rajouté et ce que j'ai fait cette semaine, un tour dans la nature. Donc, petit aparté, le tour dans la nature a été fait et c'est super important pour moi. Je vous le recommande d'essayer. Peut-être que c'est pas si important pour vous, mais moi, c'est au point vraiment que ça me fait comme l'effet d'une bière, quoi. Ça me met vraiment bien, ça me fait du bien, ça m'apaise. Et du coup, je vais continuer à me forcer de faire un tour en nature par semaine. Et donc, ce qui me fait du bien, c'est la musique, les jeux vidéo, la nature et bah, quand même le sport. Et en fait, j'ai pas été très carré ces derniers temps avec le sport. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y retourner. Et en fait, mon objectif, au-delà de me sentir mieux physiquement, et quand je dis physiquement, c'est autant bien dans mon corps que bien esthétiquement, j'ai envie de voir si ça a un effet sur mon stress et mon humeur, ce qui est largement entendable comme hypothèse scientifique. Mais voilà, je fais mes tests et voilà, je vais rajouter un peu plus de sport pour voir à quel point ça peut m'aider sur ce plan-là. En tout cas, c'est pour l'instant pas un objectif. Peut-être que ça deviendra un objectif, faire mes 3 séances dans la semaine. J'ai pas envie que ce soit le cas parce que ça a été assez compliqué de reprendre la déconnexion, la méditation, etc. Comme ça a été le cas au début de la saison 1, je vais rien rajouter tant que je suis pas clair sur ces trucs-là. Et donc, au-delà de tout ça, j'ai un autre objectif bonus qui a été réalisé, qui est d'être top 40 sur Trackmania, un jeu de voiture, sur une course. Je voulais être bon, j'étais top 40. Top 50 ou 44, 46, je ne sais plus exactement. Et bah, tout simplement, en gros, j'ai atteint un objectif sur un jeu vidéo, ce qui m'octroie un point bonus dans le développement personnel. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai 6,5 sur 10, comme je l'ai dit, mais pourquoi pas l'admettre comme une bonne note, parce que c'est important que je prenne soin de moi. Ça me fait 4 sur 5 en développement personnel, en comptant ce point de bonus, et bah, j'en suis totalement satisfait. Par rapport à ma lecture, j'ai eu un point que je trouvais intéressant. C'est pourquoi pas le fait d'avoir 2 tâches importantes par jour. C'est très simple. Je l'essaierai. Encore une fois, ce n'est pas un objectif parce que j'ai assez de choses, mais je vais essayer de garder ça en tête parce que c'est vrai que on s'éparpille beaucoup quand on se dit 2 tâches importantes. Donc c'est vraiment, ça joue sur ma thèse, ça joue sur mes relations commerciales. Je pense que se donner 2 tâches importantes et le reste, c'est des réponses de mail ou des tâches moins importantes qu'on fait en fin de journée, ça peut être un bon cadre pour faire les choses bien, proprement, avancer et avoir la clarté d'esprit. Parce que ce que j'ai vraiment compris cette semaine, c'est que la dispersion, c'est le pire ennemi de la productivité. Voilà, pour ce qui est des objectifs de la semaine prochaine, ils sont pareils, hein, globalement. Un tour dans la nature, un bon plat, la lecture et les habitudes liées à la déconnexion, la méditation. Et la marche et le sommeil. C'est les mêmes objectifs bonus, donc avancer sur la musique avec mon groupe, faire un niveau d'expert ou des mineurs, Et bah, du coup, top, allez, on va dire top 35 sur ce fameux circuit de jeux de sport. Globalement, ça ne change pas parce que je n'ai pas été top sur les habitudes. Donc, on va continuer à avoir ça comme objectif. Mais tout ça me mène à pouvoir passer aux deux dernières rubriques que je vais peut-être mettre comme une seule rubrique parce que c'est super rapide et je pense que c'est plus facile pour chapitrage. Dans tous les cas, ça ne devrait pas durer très longtemps. La rubrique du mindset et la rubrique des recommandations culturelles slash carte blanche. Pour ce qui est du mindset, il y a quelque chose que j'aimerais partager qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois, c'est le fait de se dire que on n'a pas perdu tant qu'on n'a pas arrêté. Encore une fois, je sais que je rentre dans un passage du podcast qui ressemble un peu plus à du développement personnel bullshit, mais je vous transmets des choses qui m'aident sincèrement et qui sont des grandes phrases un peu valises, mais qui résonnent vraiment en moi. C'est que, en fait, tant qu'on n'a pas décidé que la partie s'arrêtait, eh ben on n'a pas perdu, on est juste dans une façade de la partie moins bonne. Je vous dis ça parce que bah, moi, j'ai vécu beaucoup de hauts et de bas sur le fait de réussir à financer ma thèse ou pas. Et ce qui m'a tenu, c'est de me dire, bah, là, t'as telle entreprise qui t'a dit non et t'y croyais vraiment et on t'a fait trois rendez-vous où on allait presque signer pour financer ta thèse. En fait, si à partir de là, tu te décourages et que tu fais autre chose, dans ta vie, tu auras essayé de financer une thèse et tu auras raté parce que tu n'auras pas réussi. Par contre, si à chaque nouvelle entreprise qui rate, eh ben, je décide d'en faire une nouvelle, eh ben, je suis juste dans les vagues de réussite et j'ai pas perdu. Et ça m'a vraiment porté en fait ça de me dire, en fait, arrêter, c'est ça l'échec. C'est ça le vrai échec, c'est de s'avouer qu'on a échoué. Et donc, il y a quand même un effet pervers derrière qui s'appelle l'escalade d'engagement. Et donc, c'est une théorie en psychologie sociale qui dit que plus on est engagé dans un acte, c'est-à-dire plus qu'on fait un acte qui est coûteux pour nous, c'est-à-dire plutôt en temps, en énergie, possiblement monétaire, mais bon, l'argent n'engage pas tellement. Mais plus on fait un acte qui est important pour nous, qui nous demande du temps, de la ressource cognitive et émotionnelle, et potentiellement sociale, c'est-à-dire qu'on a dit aux gens qu'on allait faire ça, plus on a tendance à refaire un acte dans le même sens. C'est-à-dire que plus je fais quelque chose dans le sens je veux faire une thèse, plus j'ai envie de faire une thèse. Et moi, il y a eu un gros sujet sur la confiance. Je veux travailler sur la confiance. Et en fait, il y a un truc, bah, ça fait pas 2 ans que je travaille sur la confiance pour arrêter sur la confiance. Et donc ça, c'est piégeux, c'est très piégeux. C'est comme un exemple très courant sur cette escalade d'engagement, c'est les jeux d'argent. Je vais me refaire, je vais me refaire. Et en fait, on est. Bon, là, en plus, il y a vraiment un sujet financier derrière. Mais le fait de se dire que plus on en fait, plus on a envie d'en faire, c'est dangereux. Donc, je mets en garde sur ces croyances-là. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a sauvé parce que j'ai pas réussi vu que j'ai pas fini ma thèse. Mais je suis inscrit en thèse. Et pour l'instant, mon organisation commerciale se déroule bien. Je ne suis pas riche, je gagne même pas encore d'argent, mais je sens que ça se passe bien. Et donc pour moi, je suis sur une pente haute. Et imaginons si je suis sur une pente haute, si j'arrête maintenant, j'ai raté la thèse. Même si ça se passe très bien. Et donc, c'est pour ça que je veux transmettre et au-delà de transmettre, partager ce qui moi m'a fait tenir. Tant qu'on ne s'arrête pas, c'est pas perdu. On peut perdre un match. Moi j'aime bien le basket, on peut perdre un match de basket pendant 90% du temps. Si à la fin on remonte et qu'on met le dernier panier qui nous fait passer devant l'équipe, on a gagné. Donc voilà, ne pas lâcher, ça permet de se dire qu'on n'a pas échoué. Et je trouve que c'est important dans un mindset quand on fait un projet aussi, bah, faut le dire, long et compliqué que ce que j'essaye de faire et que ce que peut-être vous faites, que ce soit du côté entrepreneurial que du côté académique et thèse. Voilà pour ce qui est de la petite capsule mindset et on va pouvoir finir sur les petites recommandations culturelles. J'ai eu envie de vous faire des recommandations musicales parce que je me remets un petit peu à écouter de la musique, ce qui est un peu rare en ce moment. Et donc, je ne savais pas comment me placer, je sais toujours pas qui m'écoute, donc je ne sais même pas le style. Moi, j'écoute, on va dire, j'écoute un peu de tout, mais tout le monde dit ça. Plus précisément, on va dire qu'il y a deux gros champs que j'écoute quand même. C'est ce qui est côté rock, donc ce qui va du pop jusqu'au metal, et ce qui est côté rap. Et bah, du coup, j'ai découvert deux albums cette semaine, ou peut-être cette semaine et celle d'avant. Un côté rock et un côté rap. Le côté rock, je suis très content de le transmettre et beaucoup vont connaître le groupe, mais moi, c'est un groupe qui m'a un peu mis dans le rock quand j'étais jeune. C'est Sum 41, SUM 41, Sub 41 pour les Français, qui ont sorti un album cette semaine, il me semble, qui s'appelle Heaven and Hell, que je recommande, ne serait-ce que pour se remettre un petit peu les vibes de Sum 41 pour ceux comme moi qui sont nés. Allez, je pense que ça touche ceux qui sont nés dans les années 90 à 2000. Et bah, ils ont sorti un nouvel album, c'est Vibe Sum 41, ça fait toujours plaisir à réécouter. Et enfin, j'ai envie de transmettre un album de rap, un EP précisément, de Ness, NES, qui est un jeune rappeur un peu considéré New Wave, New Generation, que j'aime bien. Voilà, donc si vous avez envie d'écouter, c'est un EP, donc il n'y a pas beaucoup de titres. Et j'ai pas noté le nom de l'album. Si, c'est Pour de vrai de Ness, NES, qui est sorti pareil il y a pas très longtemps. Et voilà pour ce qui est des recommandations, cette fois-ci culturelles et pas une carte blanche. Et c'est sur ce que je vais vous remercier de m'avoir écouté. Je vous en prie, notez 5 étoiles cet épisode, enfin le podcast, et venez me suivre sur Twitter si ça vous intéresse. J'aimerais bien vraiment avoir un peu plus d'idées de qui m'écoute et du public, et puis de pouvoir, comme je l'ai dit, partager un petit peu des informations autour du podcast et autour du projet que je mène. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode de Bip Bip.